7h, c'est le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Avec à la une cette fête géante sur l'esplanade des Invalides en plein Paris et intervention des forces de l'ordre pour la deuxième soirée consécutive. Témoignage dans un instant après les autres titres, Hélène.
Une fête démesurée aussi hier sur les pelouses du stade de Bayonne après la victoire de l'équipe de rugby de Biarritz. Le préfet saisit le procureur, sanction administrative à la clé. Manifestation pour les libertés contre l'extrême droite hier un peu partout en France. La marée noire s'éloigne des côtes corses, mais les opérations de pompage toujours en cours et le navire qui a dégazé recherché. L'Algérie et les législatives, abstention record. Enfin, le choc des générations pour la finale de Roland-Garros cet après-midi. Djokovic, Tsitsipas.
Début du match à 15h et à 8h20 ce matin, question à deux têtes de liste pour les régionales. Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement National en Provence, Alpes, Côte d'Azur. Et à 8h30, Audrey Pulvar, soutenue par le Parti Socialiste en Ile-de-France.
France Inter. La barre symbolique des 30 millions de primo-vaccinés franchie hier avec 3 jours d'avance. Moins de 5000 cas quotidiens, la décrue aussi dans les hôpitaux. Bref, tous les voyants au vert, peut-être un peu trop. Premier week-end avec un couvre-feu repoussé à 23h et un temps d'été, de quoi encourager les fêtards. Des centaines de jeunes à nouveau agglutinés et non masqués hier soir sur l'esplanade des Invalides au cœur de Paris. Chérine, par exemple, raconte à Farida Noir pourquoi elle a répondu présente à l'appel lancé sur les réseaux sociaux.
En fait, il y a eu un grand rassemblement grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Et du coup, on s'est tous rassemblés aux Invalides vers 21h, aux alentours de 21h. Et là, il y a du monde qui se rassemble, on fait des pogos. Des pogos, c'est un grand rassemblement de personnes humaines qui vont sauter et qui vont danser à un groupe vraiment avec des enceintes. Et on fait la fête, on danse à l'extérieur. Après, là, vu qu'il y a les policiers, c'est un petit peu compliqué pour nous. C'est le couvre-feu décalé à 23h. Du coup, ça a réveillé une euphorie parmi nous. Et du coup, on s'est dit, on sort, on profite, on en a marre du Covid, c'est tout.
Et comme la veille, la fête géante aux Invalides se termine en affrontement avec les forces de l'ordre, gaz lacrymogène pour évacuer la pelouse à quelques minutes du couvre-feu. Et bilan, 3 interpellations, même scénario avec un peu moins de monde, juste de l'autre côté de la Seine, au jardin des Tuileries hier soir. Il n'y a pas que les jeunes qui se relâchent, à tel point d'ailleurs cette fois que le préfet tape du poing sur la table. Derby basque hier, rugby, le Biarritz Olympique dans le stade Aguilera de Bayonne. Sur le terrain, plus de blessures que d'essais, un vrai combat entre voisins et ennemis qui se termine même par des tirs au but. Victoire de Biarritz qui retrouve le top 14 la saison prochaine, mais ce qu'on retiendra surtout, c'est cette ambiance survoltée. Les supporters envahissent la pelouse, là encore peu de masques. Beaucoup de monde, sans doute bien plus que la jauge des 5000 imposée dans le stade. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a donc saisi le procureur de la République. Les organisateurs risquent des sanctions administratives. Et puis c'est l'une des images qui restera de l'Euro de foot. Christian Eriksen, 29 ans, meneur de jeu danois, victime d'un malaise à la 43e minute alors qu'il s'apprête à recevoir le ballon. Massage cardiaque sur la pelouse, hospitalisation. Christian Eriksen reprend connaissance peu après. Ses coéquipiers, rassurés, décident de reprendre le match. Encore sous le choc, on s'en doute, les Danois s'inclinent 1-0 face à la Finlande.
La politique avec des milliers de personnes hier dans les rues, un peu partout en France, pour les libertés et contre l'extrême droite.
Et toujours les écarts de chiffres. 9000 manifestants à Paris selon la police, 70 000 selon les organisateurs. Au début du cortège parisien, Jean-Luc Mélenchon a été enfariné, mais sinon, pas ou peu d'incidents et une police qui s'est faite très discrète. Reportage Thibault Lefebvre.
Gilet jaune sur le dos, Georges manifeste très régulièrement depuis près de 3 ans et il n'a jamais vu la place de la République qui a pourtant accueilli de nombreuses fins de cortège aussi peu surveillées.
Il n'y a pas les barrières de sécurité, il n'y a pas la police qui est casquée. Il n'y a pas des fouilles pour sortir de la manifestation. Là, il y a un petit canon à eau un peu plus loin, mais il est tout gentil. Donc il y a tout un dispositif pour pas créer de l'énervement. Même s'il y a des manifestants par là, en fait, ça se fait de manière bon enfant.
La raison, selon Georges, c'est notamment l'annulation récente par le Conseil d'État de plusieurs dispositions phares du schéma du maintien de l'ordre, dont la technique de la NAS.
C'est quand même un revers pour Darmanin. Donc ils sont un peu sur la défensive. Ce qui est problématique a été retiré par le Conseil d'État. Donc les manifestants sont quand même contents de voir que des instances administratives et institutionnelles écoutent un peu qu'il y a un problème à un moment donné entre garantir ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre et la liberté de manifester.
Hier, des CRS et des gendarmes mobiles ont donc assuré à bonne distance le maintien de l'ordre. À noter tout de même la présence très discrète de la BRAV et de ses policiers à moto mobilisés en cas de besoin pour aller au contact des manifestants.
Reportage Thibault Lefebvre. Le Brexit s'invite au G7. Les 7 pays les plus puissants du monde, toujours réunis en Cornouailles dans le sud de l'Angleterre. Discussion corsée hier entre les Européens et les Britanniques. L'Union accuse Boris Johnson de ne pas respecter ses promesses sur ses engagements à propos de l'Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique répond par la menace. Il n'hésitera pas, dit-il, à passer outre s'il le faut certaines dispositions du protocole. C'est ce qu'on appelle un bras de fer. Le sommet du G7 qui se poursuit avec la lutte contre le réchauffement climatique sur la table. Aujourd'hui, les dirigeants devraient s'engager à augmenter leur contribution financière de 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres à réduire leurs émissions carbone.
Ce sont les premières élections législatives en Algérie depuis le soulèvement populaire et le départ de Bouteflika il y a 2 ans.
Sauf que ce sont les mêmes au pouvoir et le résultat est déjà là. Abstention record, taux de participation de 30% seulement, soit le plus faible depuis au moins 20 ans pour des législatives dans le pays. Notre envoyé spécial à Alger, Christian Chéneau.
Anticipant une très faible participation électorale, le pouvoir algérien contourne à l'avance les critiques dénonçant un parlement sans légitimité populaire. Pour le président Tebboune, l'abstention n'est pas un problème.
Tout le monde est libre dans ce pays. La démocratie, c'est que la majorité respecte la minorité, mais c'est elle qui décide. Si tu votes ou pas, c'est ton problème. Que pour moi, le taux de participation n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ceux pour lesquels le peuple vote aient une légitimité suffisante.
Car pour les autorités algériennes, l'important est ailleurs. La légalité prime sur la légitimité, assure le ministre de la Communication, Amar Belimer.
La loi en Algérie n'impose pas un minimum de participation pour être valide. Dans un pays comme le nôtre, la légitimité, c'est la stabilité, la sécurité et l'ordre public pour les gens.
Comme si, pour le pouvoir algérien, la simple tenue des élections était déjà en soi une victoire, compte tenu du climat de défiance dans le pays.
Christian Chéneau, Alger pour France Inter. À l'étranger toujours, jour J en Israël, le Parlement doit tourner la page. Netanyahou, 12 ans au pouvoir, sans discontinuer. Session spéciale à la Knesset ce midi, à moins d'un revirement de dernière minute. La coalition la plus large qu'on ait jamais vue devrait l'emporter. Une coalition qui va de la gauche à la droite radicale en passant par le parti arabe islamiste.
En Corse, Hélène, la pollution s'éloigne vers le large.
Et ne devrait pas trop souiller les plages. N'empêche, elle est toujours là, cette nappe d'hydrocarbures en Méditerranée. La Corse qui a déclenché le plan Polmer. Plage fermée, pêche interdite, opération de dépollution en cours depuis hier matin. 3 navires soupçonnés d'être à l'origine de ce dégazage sauvage ont été repérés. Et une consigne, pas question de toucher ou de ramasser les potentielles boulettes de fioul qu'on pourrait retrouver sur le sable. Question plus large, quel est l'impact d'un dégazage sur l'environnement? Réponse avec Sandy Dauphin.
Ces boulettes de fioul, sorte de glaise visqueuse toxique, sont un danger pour les oiseaux marins, les cétacés, les tortues. Et si elles arrivent à terre, elles souillent les plages et les rochers. Sur la côte est de la Corse, c'est notamment un risque pour les étangs qu'il a fallu fermer à la hâte par précaution, explique Jean-Michel Couglioli de l'Office de l'environnement de la Corse.
Les étangs, on peut l'ensabler très rapidement quand il y a très peu de circulation d'eau. Et puis on peut aussi mettre des boudins. Donc l'objectif étant bien évidemment de stopper l'entrée d'hydrocarbures dans les étangs.
Les opérations de ramassage de ces boulettes de fioul s'avèrent plus compliquées à certains endroits. Le nettoyage au karcher, par exemple, peut abîmer certaines espèces.
Forcément, le ramassage de boulettes sur une plage sableuse est simple, mais sur les rochers, il faut être très très prudent pour ne pas utiliser des karchers, de l'eau chaude. On peut avoir des dégâts qui peuvent être bien plus importants en faisant des opérations de nettoyage qu'en laissant parfois les hydrocarbures se dégrader eux-mêmes en quelques mois.
Les côtes corses sont régulièrement confrontées à des dégazages. Dernier épisode en date, en août 2019 dans le sud, il avait fallu enlever 500 kilos de boulettes de fioul dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et encore, il s'agit de la partie visible de cette pollution aux hydrocarbures, car elle peut aussi sombrer au fond de l'eau.
Signe de plus peut-être du réchauffement climatique, la ville de Kyoto au Japon signale le démarrage le plus tôt jamais vu de la saison des cerisiers en fleurs depuis le début des relevés, soit quand même, tenez-vous bien, depuis l'an 812. Mmh. Surnommé le tueur de la gare, Jacques Ranson a été condamné hier aux assises à 30 ans de réclusion pour le meurtre d'Isabelle Ménage, une jeune femme de 20 ans, violée, assassinée en 86 près d'Amiens. Jacques Ranson, déjà condamné il y a 3 ans à la perpétuité pour les viols et les meurtres à la fin des années 90 de deux femmes près de la gare de Perpignan. Allez, on termine avec le tennis. Actualité sportive décidément chargée ce week-end. D'abord, Cocorico, on ne boudera pas vu les performances françaises de ce Roland-Garros, n'est-ce pas ? Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert en double et en grand vainqueur de la finale hier pour la deuxième fois de leur carrière. Chez les dames, consécration pour la Tchèque Barbora Krejčíková. Mais le grand moment, la grande finale, c'est bien sûr maintenant, enfin tout à l'heure à 15h. Djokovic, le numéro 1 mondial, le tombeur de Nadal face au jeune grec Tsitsipas, numéro 5, qui joue lui sa toute première finale de Grand Chelem. Le Serbe, le senior, ne pêchera pas par excès de confiance, il le dit à Fabrice Abgral.
C'est la première fois qu'il est en finale d'un Grand Chelem. Pour lui, c'est déjà un grand exploit. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il est en grande forme physique, il est au top au classement. Il a gagné en maturité en tant que joueur et la terre battue est sa surface préférée.
Et je sais que vous serez devant votre télé, Eric Delvaux, Novak Djokovic face à Tsitsipas tout à l'heure, 15h pour la finale de Roland-Garros.
Et oui, et quel temps fera-t-il au-dessus du cours Philippe Châtrier ? On voit ça dans un instant. Merci Hélène Roussel.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski, dites voir, c'est l'été avant l'heure.
Hein. Ah, exactement, Eric. Et contrairement à hier, notamment au sud de la Garonne et au voisinage de la Manche, où l'ambiance est quand même restée assez mitigée une partie de la journée, aujourd'hui, le beau fixe va s'imposer absolument partout. Les grisailles côtières ne vont pas faire long feu face au soleil vaillant. Avec cet après-midi, des températures proches de 37 degrés du Roussillon à la basse vallée du Rhône, 33 à 35 du Poitou-Charentes aux Pyrénées. Il est prévu 32 à Grenoble et à Montélimar, une trentaine de degrés sur la Bourgogne, le bassin parisien, le centre Val-de-Loire, dans l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie, 28 à Brest ainsi qu'à Strasbourg et un bon 25 degrés à proximité de la Manche.
Jean-Michel Golinski, Météo France.